Bonjour Gaël Giraud.
Bonjour.
Vous êtes économiste donc et directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Vous faites partie de ceux qui estiment qu'après cette crise, eh bien rien ne pourra plus être comme avant. Qu'est-ce qui devra impérativement changer à vos yeux ?
Je crois que ce dont on fait l'expérience aujourd'hui, c'est qu'on a construit une globalisation marchande qui nous rend extrêmement vulnérables. C'est-à-dire qu'on a organisé notre commerce international sur des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement à flux tendu, sans substitut, sans redondance pour maximiser le taux de profit. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si vous avez, disons, 30% des salariés d'une entreprise qui ne peuvent plus travailler, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque d'attraper le virus, c'est pas 30% de production en moins, c'est l'entreprise qui est obligée de s'arrêter, de fermer. Si cette entreprise est elle-même insérée dans une chaîne de valeur internationale et qu'il n'y a pas de substitut, c'est la chaîne tout entière qui est interrompue. Mmh. Et donc, par exemple, les habitants de Londres sont en train d'en faire l'expérience aujourd'hui, hein, puisqu'il commence déjà à y avoir du rationnement alimentaire à Londres en ce moment. Le maire de New York a également prévenu ses concitoyens que probablement il y aurait du rationnement alimentaire à New York.
C'est-à-dire qu'au-delà de la crise de la demande, vous constatez que la crise de l'offre alimentaire notamment pourrait venir à faire défaut dans les semaines qui viennent ?
Ah oui, c'est tout à fait possible dans un certain nombre de grandes métropoles qui sont trop fragiles, trop vulnérables. Donc la nouveauté de la crise actuelle du point de vue économique, c'est que c'est à la fois une crise de la demande, comme vous venez de le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des liquidités mais qui ne peuvent pas les dépenser.
Ah, eh bien je crois que nous avons été coupé, Gaël Giraud, économiste, directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Je vous repose la question, est-ce que vous m'entendez bien ? Non, il n'y a personne pour l'instant. Alors vous allez m'expliquer comment je dois tenir le micro pendant les 20 minutes à venir avec une onde.
Si vous voulez, Rick Delvaux, vous me posez les questions, je vous réponds.
Vous avez sûrement de grandes compétences économiques, mais j'aimerais les poser à Gaël Giraud. Donc, on va refaire un essai, on essaye de rejoindre, vous avez compris que France Inter a considérablement modifié le fonctionnement de son antenne, nous sommes seuls, je suis seul pour l'instant au micro, tous les chroniqueurs sont à distance, chez eux ils font un effort considérable pour pouvoir répondre au direct de France Inter et nous avons retrouvé Gaël Giraud, donc économiste et directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste de l'Agence française du développement. Vous êtes bien en ligne ?
Oui, je suis là.
Alors, quand vous dites que les économies mondiales ne se sont jamais préparées à un tel scénario catastrophe, malgré les quelques alertes, justement, quels sont les signes précurseurs qui auraient dû alerter les financiers et autres dirigeants de la planète ?
Si vous voulez, c'est le fait qu'il y ait déjà eu des épidémies du même type, hein, qui étaient absolument analogues à celles que nous connaissons aujourd'hui, en 2002, en 2013, l'épidémie du SARS notamment. On sait que les marchés d'animaux sauvages à Wuhan et à Pékin n'ont pas fermé, contrairement, enfin, en dépit des alertes de l'OMS. Et il y a quand même un certain nombre de pays qui se sont préparés. Hein. Taïwan, la Corée du Sud étaient prêts à affronter ce type d'épidémie, et nous, pas du tout. On n'a pris aucune mesure pour nous protéger.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, compare la situation actuelle au krach boursier de 1929. En quoi est-ce similaire ?
Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait similaire. Ce qui est similaire, c'est qu'il y a une panique sur les marchés boursiers, mais la grande différence entre ce qui se passe aujourd'hui en 2020, 1929 ou 2008, c'est que l'origine de la crise n'est pas financière. L'origine de la crise se trouve dans l'économie réelle, c'est-à-dire que c'est la production elle-même qui est à l'arrêt. C'est à la fois une crise d'offre et de demande, et ce n'est pas simplement une crise financière. C'est beaucoup plus grave, en fait.
C'est-à-dire la crise que nous traversons aujourd'hui, elle va bien entraîner une crise de solvabilité, comme en 29 d'ailleurs, ou en 2008 avec les subprimes. C'est ça qui va entraîner, selon vous, un inévitable prochain krach boursier, comme en 29 ou comme en 2008 ?
Je ne sais pas s'il est absolument inévitable, parce que les banques centrales ont pris des positions extrêmement fortes et elles ont eu raison.
On va en parler dans un instant des banques centrales, oui.
La casse financière. Simplement, ce que j'aimerais rappeler, c'est que l'origine de la crise n'est pas financière. C'est ça la grande différence avec 2008 et 1929. Elle se trouve dans l'économie réelle. Et donc, on peut, si vous voulez, injecter des milliers de milliards dans le secteur bancaire aujourd'hui. Ça ne sert pas à grand chose dans l'immédiat, puisque ça ne sauve pas des vies. Les banques ne peuvent pas vous immuniser contre les virus. Et puis, ça ne réalimente pas les chaînes d'approvisionnement qui sont interrompues. Donc, il faut d'abord s'occuper de l'économie réelle. Hein, c'est la raison pour laquelle, l'argent qui est aujourd'hui injecté par les banques centrales dans le secteur bancaire, il doit surtout être injecté auprès des entreprises.
On va en reparler.
Et des ménages.
On va faire un point. Oui, oui, je vous entends bien. Juste pour vous dire qu'on va faire un point dans un instant sur les banques centrales et leur rôle. D'abord, une question de Patricia Martin.
Il faut déjà s'occuper de la santé des citoyens. Vous avez signé une tribune dans Libération où vous dites que le Covid-19, finalement, ce sera peut-être le retour de l'État-providence, c'est-à-dire d'un État ramené à sa mission première, qui est la survie de chacun. C'est déjà une première chose. Et d'un autre côté, comment le faire d'un point de vue non pas sanitaire, mais économique? Bernard Maris, qui est un économiste que beaucoup de gens sur France Inter aiment bien toujours, disait que l'économie n'était pas une science exacte.
Oui, oui, vous avez raison. La première chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est sauver des vies. C'est l'impératif premier qui prime sur tout le reste. Et donc, ça veut dire un investissement massif de la part de l'État dans le système hospitalier. On est en train de découvrir que le fait d'avoir démantelé quasiment complètement notre système sanitaire en France, ça nous coûte des vies aujourd'hui. 300 morts encore hier. Et donc, c'est ça qu'il faut faire tout de suite. Ça veut dire concrètement reproduire des ventilateurs, des masques. Il y a encore quelques années, on était capable de produire des millions de masques. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et puis surtout, produire des enzymes pour faire des tests. La seule manière de sortir intelligemment du confinement, pour que ce confinement serve à quelque chose, c'est de dépister ceux qui sortiront du confinement. Sans quoi, une fois qu'on sera sorti de chez nous, l'épidémie va reprendre, exactement comme si on ne s'était pas confiné, et il faudra tout recommencer.
Mais de toute façon, si vous permettez,
entre-temps, notre système hospitalier sera à genoux.
Quand on parle de guerre, puisqu'on dit qu'on est en état de guerre, quand il y a une guerre, il y a une entrée en guerre, il y a aussi une sortie de guerre après laquelle on peut reconstruire. Et là, on a l'impression que c'est une mort invisible qui rôde et que la peur sera là même quand on en sera sorti. C'est-à-dire que quand on a peur que même les cadavres vous contaminent, on se dit bien que la sortie de guerre, elle sera compliquée.
Oui, je suis pas complètement convaincu par la métaphore guerrière et belliqueuse. Donc, je crois, à mon avis, ce qu'il faut rappeler, c'est que la sortie du confinement ne sera pas du tout la fin de la crise, au sens où nous en avons encore pour un an et demi de bagarre avec ce virus, parce que le virus est en train de se répandre sur la totalité de la planète. Vous avez vu qu'il est arrivé en Inde, en Afrique. Il va probablement muter, il va vraisemblablement revenir, donc il y aura des nouvelles vagues. Certains d'entre nous devront être reconfinés, donc on en a pour au moins un an et demi. Donc la peur, si vous voulez, d'une certaine manière, ne va pas nous quitter tout de suite. Il faudra que nous apprenions très très vite à avoir des gestes d'hygiène élémentaire tout le temps, même lorsque nous serons sortis du confinement. Il faudra porter des masques pendant plusieurs mois, même à la sortie du confinement. Donc de ce point de vue-là, ça ne va pas s'arrêter dans un mois.
Il y aura une distanciation sociale.
Oui, oui, il faudra conserver de la distanciation sociale pour éviter de retransmettre le virus. Le seul moyen de nous en tirer, c'est de mettre en œuvre ce qui a été fait à Taïwan et en Corée du Sud de manière extrêmement efficace, c'est-à-dire de pratiquer des tests de manière systématique. Donc en France, on s'apprête à pratiquer 200 000 tests par semaine. En Allemagne, c'est 500 000 déjà. Et c'est ça qui explique essentiellement le faible nombre de morts qu'il y a en Allemagne aujourd'hui comparé à ce qu'on trouve en France.
Avec l'État-providence, donc, dites-vous, comme parade à ce type de crise, une providence comme celle qui était réapparue d'ailleurs lors de la crise des subprimes. Mais justement, rappelez-nous avec quel succès l'État-providence ou quels échecs l'État-providence est venu à bout de cette crise entre 2008 et 2009.
Oui, en 2008, on a beaucoup parlé du retour de l'État-providence, mais c'était essentiellement rhétorique. C'est-à-dire que ce en quoi ça a consisté, c'est des petites aides budgétaires qui étaient insuffisantes. Et aujourd'hui, l'aide budgétaire envisagée par la plupart des pays est également insuffisante. Et puis, c'était surtout des tombereaux de liquidités injectés par les banques centrales dans le secteur bancaire. Or, cet argent qui a été injecté dans le secteur bancaire n'est pas arrivé dans l'économie réelle. Il a été essentiellement utilisé par les banques pour agir sur les marchés financiers. Et il a alimenté la bulle financière qui aujourd'hui est en train de crever. Puisque en deux semaines, la planète a perdu en gros un tiers de la capitalisation boursière mondiale. Donc l'État-providence en 2008 n'est pas véritablement revenu. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir s'il va revenir maintenant.
Et bien justement, avec cette crise, en quoi le modèle européen et sa banque centrale ont déjà montré leurs éventuelles limites, selon vous ?
Alors, la Banque centrale a réagi de manière forte et elle a eu raison. Et puis, par ailleurs, je me réjouis du fait que Christine Lagarde ait repoussé la proposition qui venait des Pays-Bas, qui était de dire on va aider budgétairement les pays du Sud, en particulier l'Italie, à condition qu'elles mettent en œuvre les fameuses, entre guillemets, réformes structurelles que les Pays-Bas appellent de leur vœu depuis des années. Donc, la BCE, heureusement, a repoussé cette proposition qui, à mon avis, est complètement aberrante. Simplement, vous voyez bien, c'est comme le problème vient de l'économie réelle, la monnaie comme telle ne suffit pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est sauver des vies et donc avoir des masques, produire des ventilateurs et produire des enzymes qui permettent de faire des tests. Or ça, la Banque Centrale Européenne, elle ne peut pas le faire. Donc ça, c'est à l'État français, à chaque État, éventuellement de manière coordonnée, ce serait beaucoup plus intelligent, évidemment, de le faire. Alors, quant à aux unions, à l'Union Européenne elle-même et aux institutions communautaires, évidemment, elles affichent aujourd'hui un manque de coordination cruel. Hein. Il y a un sondage qui vient de sortir en Italie qui montre que les Italiens s'interrogent beaucoup sur l'utilité d'être dans la zone euro, puisque à ce jour, ils ont été aidés par des Chinois et par des Russes. Personne au sein de l'Union Européenne ne les a aidés.
Et quand la BCE lance un vaste plan de rachat d'actifs, hein, près de 1000 milliards d'euros de soutien aux entreprises, et ça, ce n'est pas dans ses habitudes. Vous y faisiez allusion aussi, la BCE qui a fait sauter la règle des 3%. Tout ça, tout de même, c'est une petite révolution pour la Banque Centrale Européenne, non ?
Alors oui, la règle des 3%, c'est pas la Banque Centrale Européenne, disons, c'est la Commission Européenne, mais oui, c'est des petites révolutions, mais qui étaient appelées de leur vœu par beaucoup d'économistes, moi compris, depuis des années, et c'est le minimum minimorum qu'on puisse faire aujourd'hui, face à l'ampleur du désastre. Hein. Il faut voir qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de chômage à la sortie du confinement, beaucoup d'entreprises qui ont été interrompues. Aux États-Unis, il y a déjà 3 millions de chômeurs de plus. En France, il y aura probablement au moins 1 million de chômeurs supplémentaires. Or, de nouveau, je le redis, hein, le quantitative easing, donc l'assouplissement monétaire quantitatif mis en œuvre par la BCE, c'est bien, mais ça permet juste de sauver les banques. Ça ne permet pas à ce jour de sauver l'économie réelle.
Une question de Patricia Martin.
Oui, quand vous parlez d'économie réelle, cette crise, finalement, est-ce qu'elle ne rejoint pas aussi la question de l'écologie ? Si on prend le problème, enfin la question d'alimentation par exemple, on dit qu'il faut manger local. Là, on est dans un système qui marche sur un fil, c'est-à-dire que certains aliments font, je ne sais pas combien de fois, peut-être au moins deux, le tour de la planète avant qu'ils arrivent dans nos assiettes.
Oui, tout à fait. Donc c'est ça, on est en train de se rendre compte que d'une part c'est aberrant et d'autre part ça nous rend extrêmement vulnérables. Donc il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont confinés, qui ont repris contact avec des AMAP et qui se font livrer localement par les agriculteurs du coin. Bon, et donc c'est évidemment ça qu'il faut remettre en œuvre à la sortie du confinement, c'est-à-dire relocaliser la totalité de la production, relancer une industrialisation verte en France avec des produits que nous produisons pour nous, puisqu'on ne peut plus continuer à dépendre de l'offre internationale qui est à ce point fragile et vulnérable dans un contexte où il y aura d'autres pandémies. Celle-ci n'est absolument pas la dernière.
Au 01 45 24 7000, c'est le standard de France Inter. Question ce matin à l'économiste Gaël Giraud. Et Dominique est en ligne. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous nous appelez de la Marne, je crois.
C'est cela, oui. Bonjour, je vous appelle. D'abord, je voudrais faire une petite déclaration. Remercier aussi, associer au remerciement tous les techniciens de France Inter, le personnel, etc.
Et vous avez bien raison.
Qui nous permet quand même de continuer à écouter des choses très intéressantes comme d'habitude, donc il ne faut pas les oublier non plus.
Certainement Merci. Pas, c'est gentil de faire une remarque sur eux, effectivement. Quelle est votre question ?
Alors ma question, je voulais aussi dire à Monsieur Giraud que je l'admire beaucoup et qu'il dit toujours vrai et j'ai confiance en lui. Ma question c'était, avec tout ce qu'on vient d'évoquer justement, il ne pourra jamais, ça ne pourra plus être pareil, on ne reviendra plus à la même chose. Je suis un peu dans le doute parce qu'on a vu effectivement ce qui s'était passé après 2008. Et sinon, qui va faire quoi ? Comment va-t-on veiller à ça pour que justement on change les choses et on revienne à une économie réelle ?
Changer de paradigme, un vœu pieux, Gaël Giraud.
C'est une très bonne question. Hein. Donc, lorsque je dis qu'on ne peut pas continuer à essayer de reconduire le monde ancien, évidemment, je formule également mon propre souhait. Il y a une tentation très très forte de la part d'un certain nombre de gouvernements aujourd'hui qui est de dire d'abord de sacrifier des vies humaines contre l'économie et ensuite d'espérer pouvoir avoir un rebond très rapide et ensuite reconduire le monde ancien. Je crois que l'ampleur du désastre qu'on est en train de connaître et qu'on va connaître dans les mois prochains va quand même ouvrir un certain nombre de dieux qui sont fermés aujourd'hui, j'espère en tout cas. Maintenant, qui va prendre ses responsabilités ? Je crois que c'est essentiellement les gouvernements. Il y a une question politique majeure, hein, qui est le plan de relance qu'on va mettre en œuvre à la sortie du confinement et en tout cas à la sortie de la crise. Sera-t-il simplement un plan destiné à rebooster l'économie d'hier ou bien un plan de transition écologique avec relocalisation de la production, et comme effectivement j'appelle de mes voeux.
Si on prend l'exemple des États-Unis, Donald Trump a lancé avant-hier un énorme plan de relance, hein, plus de 2 milliards de dollars sur la table qui vont servir notamment à l'aide sociale.
2 000, 2 2000 milliards.
2000 milliards, j'avais dit quoi ? Oui, 2000 milliards de dollars pour les entreprises, pour l'aide sociale, pour les hôpitaux, pour la recherche, un peu comme à l'époque du New Deal de Roosevelt. Est-ce que vous êtes surpris d'ailleurs par le fait que Donald Trump redécouvre les vertus de l'interventionnisme d'État ?
Non, ça me surprend pas. Donald Trump est assez fou, hein, en vérité. Mais il n'est pas du tout corseté par l'idéologie, disons, bureaucratique néolibérale. Donc il est tout à fait libre. Il se sent libre de faire ce qui lui semble des mesures de bon sens. De temps en temps, c'est n'importe quoi, et de temps en temps, c'est juste. Là, l'ordre de grandeur est le bon, hein. Ça fait quasiment 20% du 10% du PIB américain.
C'est le double de ce que Obama avait mis sur la table pour les subprimes, hein.
Oui, et on est très en deçà en Europe. Hein. On est très en deçà en Europe, à part l'Allemagne qui fait quasiment la même chose. La France est très en deçà aujourd'hui, puisque le plan français à ce jour, c'est 45 milliards, c'est très très peu, avec ensuite un peu d'aide publique pour la garantie, enfin une garantie publique pour les prêts qui vont être accordés aux entreprises en difficulté. Je pense que sur ce point, c'est Trump qui a raison. Après, la question qu'il faut débattre, et elle est très débattue aux États-Unis en ce moment, c'est cet argent va-t-il servir à rebooster un certain nombre d'entreprises qui sont les entreprises d'hier, hein, l'aviation, un tourisme très polluant, ou bien va-t-il permettre de changer l'économie américaine ?
Oui. Question au standard de Stéphane, 01 45 24 7000. Stéphane, bonjour.
Bonjour. Ben, je reste un peu dans la même lignée. C'était une question sur coronavirus. N'est-il pas une bonne nouvelle pour l'environnement ? Est-ce que ça sera quand même l'occasion de remettre en cause la croissance d'une façon globale ? On voit par exemple que les Jeux Olympiques ne sont pas du tout remis en cause, alors qu'on sait très bien que les Jeux Olympiques sont énormément émetteurs de CO2, et on sait que derrière, qu'est-ce que c'est les Jeux Olympiques ? C'est malheureusement bientôt plus de sport, c'est que du business. Donc il y a une remise en cause, mais elle est encore à distance. On voit encore même le Tour de France. Le Tour de France, ils pensent encore l'organiser cette année, alors que c'est à l'opposé de ce qui... Ouais, ça n'a rien à voir avec la gravité de la situation. Tout ça pour faire en gros de la publicité et continuer ce système de croissance et de consommation.
Eh bien, on va poser la question à Gaël Giraud. Est-ce que la croissance doit évoluer et être pondérée selon les marqueurs écologiques alors ?
La réponse est évidemment oui, ça c'est certain, et cet auditeur a raison. Donc aujourd'hui, on va connaître de la décroissance forcée, contrainte, non voulue. Il y a un petit débat en France sur l'impact économique de ce qui se passe en ce moment. Hein. Bruno Le Maire vient de dire qu'à son avis, on va avoir moins 1% du PIB en 2020. Je pense que c'est très très optimiste. Hein. Ce sera plutôt quelque chose qui va être autour de moins 5, moins 6, moins 7% au moins. Simplement, les dégâts sociaux humains vont être absolument colossaux. Et donc il y a une énorme différence entre une décroissance subie, non voulue, dans le chaos, comme c'est le cas en ce moment, et une transformation de notre modèle économique pour affronter les défis écologiques d'aujourd'hui.
On a pas mal parlé ce matin du rôle des institutions, mais vous dites aussi qu'il faudra compter sur un sursaut à la fois individuel, mais surtout collectif. Mais quel type de sursaut attendez-vous de la part de tous et de chacun ?
Alors en fait, ce qui est en train d'émerger en ce moment, c'est la question des communs, c'est-à-dire mettre en commun notre intelligence collective et un certain nombre de nos ressources. Je prends deux exemples. Le premier, c'est très rapidement au début de la crise pandémique, un certain nombre d'ingénieurs et de chercheurs se sont coalisés et ont lancé Open Covid, qui est une initiative sur Internet qui permet de mutualiser les bonnes pratiques en termes de dépistage. Donc ça, c'est une initiative locale, enfin je veux dire globale en vérité, mais avec des personnes que personne n'a sollicité et qui se sont mobilisées spontanément. Et puis il y a un deuxième exemple maintenant qui fait le tour des réseaux sociaux, qui est la mise en place d'un code en accès libre qui permet d'imprimer soi-même avec son imprimante 3D des machines, des ventilateurs, des machines qui donnent de l'oxygène pour les personnes qui souffrent de détresse respiratoire. Donc là aussi c'est un exemple proposition spontanée par des communautés locales qui sont interconnectées, qui permettent d'avancer très très vite et d'être au moins aussi efficace, sinon davantage, que la puissance publique lorsque celle-ci est complètement dépassée, comme c'est le cas en ce moment.
Eh bien, merci.
Gaël Giraud, dites-nous qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont prêts à jouer en équipe, sinon on va passer un dimanche horrible.
Oui, c'est le cas, c'est ce que j'observe un peu partout. Il y a énormément de solidarité qui se met en place aujourd'hui, en particulier auprès du personnel médical qui fait aujourd'hui des prouesses et des miracles à chaque minute, en ce moment où nous parlons, hein, à l'heure actuelle. Et donc, j'ai énormément de témoignages de voisins qui soutiennent leurs médecins, leurs infirmiers, leurs aides-soignants et qui leur permettent de faire les miracles qu'ils font aujourd'hui.
Eh bien, merci Gaël Giraud d'être venu éclairer nos lanternes ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Merci à vous et bonne journée.